Annie, troisième partie, chapitre 6. Duquet, Sixte vit qu'une lampe brûlait dans la chambre de sa femme, et, au bruit qu'il fit en ouvrant sa grille, Annie parut sur la véranda. En route, il s'était dit qu'elle se serait couchée et qu'il la trouverait endormie, ce qui retarderait l'explication jusqu'au lendemain. Mais non, elle l'avait attendue et la confession devrait se faire tout de suite. Pendant qu'il traversait le jardin, la lumière avait disparu de la fenêtre de la chambre, et quand il entra dans le vestibule, il trouva sa femme devant lui, qui le regardait. « Tu t'es impatienté ?» Annie avait trop souvent entendu sa mère dire à son père « Je ne te fais pas de reproche, mon ami, pour tomber dans ce travers des femmes qui se croient indulgentes. » Aussi, en descendant l'escalier, avait-elle mis dans les yeux son plus tendre sourire. Mais, en le voyant, sous le jet de lumière qu'elle dirigeait sur lui, ce sourire s'effaça. Qu'avait-il ? Elle le connaissait trop bien, elle était en trop étroite communion de cœur, d'esprit, de pensée, de chair avec lui, pour n'avoir pas reçu un choc. Et malgré elle, instinctivement, elle formula tout haut le cri qui lui était monté à la gorge. « Qu'as-tu ? Que s'est-il passé ? Que t'est-il arrivé ?» « Je vais te le dire. Montons. Au fait, cela valait mieux ainsi. Au moins, les embarras de la préparation seraient épargnés. » Et, en arrivant dans leur chambre, en quelques mots rapides, il dit ce qui s'était passé chez Darjusanx, sa perte, le chiffre de cette perte. À mesure qu'il parlait, il vit l'expression d'angoisse qui contractait le visage de sa femme, relevait ses sourcils, découvrait ses dents, s'effaçait. Il n'avait pas fini qu'elle se jeta sur lui et l'embrassa passionnément. « Et c'est pour cela que tu m'as fait cette peur affreuse » s'écria-t-elle. « N'est-ce rien ? Qu'importe ! Il faut payer. Eh bien, tu paieras. Ne peux-tu pas prendre 65 000 francs sur ta fortune sans que ce soit une catastrophe ?» À son tour, sa physionomie sombre se rasséréna. Alors, il n'y a donc qu'à prendre les 65 000 francs dans notre caisse, dit-il avec un sourire. Il n'y a qu'à les demander à mon père, ce que je ferai dès demain matin. Ce que nous ferons, reprit-il. C'est déjà beaucoup que tu sois de moitié dans une démarche dont je devrais être seul à porter la responsabilité. Les choses arrangées ainsi, elle pouvait maintenant poser une question qu'elle avait sur les lèvres, et cela sans qu'il pût voir dans sa demande une intention de reproche ou de blâme. « Mais comment as-tu perdu cette somme ? » dit-elle. « Ah ! Comment ?» Elle hésita une seconde, puis se décidant. « Tu es donc joueur ? » dit-elle. « Je l'ai été à deux périodes de ma vie, à 15 ans au collège et à 20 ans à Saint-Cyr. À 15 ans, j'ai, à un certain moment, perdu 120 francs contre Darjusanx, en jouant quitte ou double. Tu imagines quelle somme c'était pour moi qui n'avais que 20 sous qu'on me donnait par semaine, et quelles émotions j'ai alors éprouvées. Heureusement, Darjusanx me donnant toujours ma revanche, j'ai fini par m'acquitter. Plus tard, à Saint-Cyr, j'ai perdu 1 200 francs, qui pendant longtemps ont pesé sur ma vie d'un poids terriblement lourd. Depuis, je n'avais pas touché à une carte. Et il y a 10 ans de cela. Comment me suis-je laissé entraîner, moi qui n'aime ni le jeu ni les joueurs? Je n'en sais rien. Un coup de vertige. Et aussi, je dois te le confesser, puisque je ne te cache rien, certaines railleries qui, adressées à Delavigne, me parurent passer par-dessus la tête de celui-ci pour frapper sur moi. « Alors tu as bien fait, » dit-elle. « Peut-être, mais où j'ai eu tort, ça a été en ne m'arrêtant pas à temps. » Qui s'arrête à temps ? Toutes les ivresses sont les mêmes. Il arrive un moment où l'on ne sait plus ce qu'on fait, et où l'on est le jouet d'impulsions mystérieuses, auxquelles on obéit, avec la conscience parfaitement nette, qu'on est misérable de les subir. C'est mon cas, ce qui n'atténue en rien ma responsabilité. Le lendemain, non le matin comme le voulait Annie, mais dans l'après-midi, aussitôt que Sixte fut libre, ils partirent en voiture pour Ourteau, où ils arrivèrent à la nuit tombante. Barinque, qui rentrait à ce moment même, se trouva juste à point pour donner la main à sa fille descendant du phaéton. « Quelle bonne surprise !» dit-il en l'embrassant. « Qui vous amène ?»«
Nous allons te dire ça, » répondit Annie, « quand nous serons avec maman. »
« Enfin, vous êtes en bonne santé, c'est l'essentiel. Et vous dînez avec nous. Ah, c'est la fête. Manuel, va vite dire à la cuisine que les enfants dînent.
Justement, j'ai gardé ce matin un superbe saumon pour vous l'envoyer. Nous le mangerons ensemble. »
Il avait pris le bras de sa fille.
« Et ça ne peut se dire que devant ta mère, votre affaire ?
Cela vaut mieux.
Alors, allons la rejoindre tout de suite. »
Ils entrèrent dans le salon où se tenait Madame Barinque, sous la lumière de la lampe, coupant une revue qu'elle ne lirait jamais et à laquelle elle n'était abonnée que parce qu'elle trouvait cela « châtelain ».«
Annie a quelque chose à nous annoncer, » dit-il.
Il n'y avait pas à reculer.
« Un accident, » dit-elle,
« qui la nuit dernière est arrivé à mon mari. »«
Un accident ?»
s'écrièrent en même temps le mari et la femme. Dans une réunion chez M. d'Arjusanx, il a été entraîné à jouer et il a perdu.
65 000 francs, acheva Sixte.
65 000 francs, répéta Madame Barinque en laissant tomber sa revue et son couteau à papier.
Que nous venons te demander, papa? Dit Annie en regardant son père.
Il est évident que ce n'est pas vous qui pouvez les payer, répondit-il d'un ton tout franc.
« Et les dettes de jeu se paient dans les 24 heures, » dit Annie.
« C'est certain. »
Depuis le mariage, Madame Barinque, au contact du bonheur de sa fille, s'était singulièrement adoucie à l'égard de Sixte, qu'elle n'appelait que « mon cher Valentin »,« mon bon gendre » ou « mon enfant » tout court. Mais la perte des 65 000 francs la suffoqua.
« Comment, monsieur, vous perdez ?» 65 000 francs,
dit-elle. Hélas, ma mère.
Et comment avez-vous perdu 65 000 francs?
Le comment ne signifie rien, interrompit Annie.
Au contraire, il signifie tout. Vous êtes donc joueur, monsieur?
On n'est pas joueur parce que par hasard on perd une somme au jeu, continua Annie.
Sans répondre à sa fille, Madame Barinque se leva et, s'adressant à son mari,
« Ainsi, dit-elle, vous avez marié ma fille à un joueur.
Mais, cher ami,
je ne vous fais pas de reproche. Vous êtes assez malheureux de votre faute, pauvre père. Mais enfin, vous l'avez sacrifié. »
Puis tout de suite, se retournant vers son gendre,
« Comment n'avez-vous pas eu la loyauté de nous prévenir que vous étiez joueur ?
Mais, maman, interrompit Annie, Valentin n'est pas joueur. Il y a 10 ans qu'il n'avait touché aux cartes.
Eh bien, quand il y touche, ça nous coûte cher. »
Barinque crut que ce mot lui permettait d'arrêter la scène qui, pour lui, était d'autant plus injuste que tout bas, il se disait que Sixte avait bien le droit de perdre ce qui lui appartenait.
« Donc, il n'y a qu'à payer, » conclut-il.
Mais sa femme ne se laissa pas couper la parole.
« Je ne fais pas de reproche à Monsieur Sixte, » reprit-elle. Seulement, je répète que quand on entre dans une famille, on doit avouer ses vices.
Mais Valentin n'a pas de vices, maman.
C'est peut-être une vertu de jouer.
Je dis encore que quand un homme a le bonheur inespéré, pour bien des raisons, d'être distingué par une jeune fille accomplie et d'entrer dans une famille accomplie aussi, il doit se trouver assez honoré et assez heureux pour ne pas chercher des distractions ailleurs. »
Pendant que Madame Barinque parlait avec une véhémence désordonnée, Annie regardait son mari qui, immobile, calme en apparence, mais très pâle,
ne bronchait pas. Elle coupa la parole à sa mère. « Allons-nous-en, » dit-elle à son mari. Mais son père, la prenant par la main, la retint. « Ni les paroles de ta mère, » dit-il, « ni ton départ n'ont de raison d'être. Dans la situation présente, il n'y a qu'une chose à faire, payer. C'est à quoi nous devons nous occuper. « Où est l'argent ?» demanda Madame Barinck. « Je ne l'ai pas, mais je le trouverai. » « Sixte, mon cher enfant, accompagnez-moi chez Rébénac. Et toi, Annie, reste avec ta mère, à qui tu feras entendre raison. »«
Mais j'ai besoin de te parler !»
s'écria Madame Barinck en faisant signe à son mari de la suivre.
« Et tu n'as rien dit du testament !»
s'écria Annie en se jetant dans les bras de son mari quand son père et sa mère furent sortis.
« Ah, cher, cher !»
C'est lui, justement, qui m'a si bien fermé les lèvres. Et puis, quand ta mère me disait qu'un mari qui a eu le bonheur de trouver une femme telle que toi n'a pas à chercher de distraction autre part, elle n'avait que trop raison.
« Tu es un ange !»